Ce qu'elle dit avoir vécu est un véritable calvaire. Laetitia a partagé la vie de Guillaume B. pendant 7 ans dans les Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui âgée de 42 ans, elle raconte avoir été torturée, menacée et prostituée par son ex-compagnon. Guillaume B., 51 ans, évoque pour sa part des jeux sexuels et une relation sadomasochiste consentie avec son ex-conjointe. Mais il est désormais renvoyé devant les assises de Digne-les-Bains où il doit comparaître pour proxénétisme aggravé, viol aggravé et acte de torture et de barbarie à partir de lundi 18 mai. Aujourd'hui handicapé après des années de violence, alors qu'un huis clos lui aurait sans doute été accordé au vu de la nature des faits, Laetitia a décidé d'ouvrir les portes du tribunal en grand et de témoigner à visage découvert. Quels vont être les enjeux de cette audience? Pourquoi certaines victimes de violences sexuelles décident-elles aujourd'hui de refuser le huis clos à leurs agresseurs? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com. Maître Philippe-Henri Honegger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat de Laetitia, merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons revenir avec vous sur les enjeux de ce procès et le choix de votre cliente. Mais tout d'abord, Elisa, on va revenir sur la manière dont les autorités ont appris ce dont Laetitia a été victime.
Et tout part du témoignage de l'une de ses proches. Au mois de mai 2022, cette femme appelle un commissariat situé non loin de chez elle. Elle explique que son amie qui vit à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, est victime de violences conjugales, physiques et psychologiques. Toujours d'après elle, Laetitia aurait même été contrainte par son compagnon de se prostituer. Et elle précise que si elle prend la décision de prévenir les autorités, c'est parce que son amie vient de lui raconter avoir été étranglée pendant la nuit par son conjoint, mais qu'elle refuse d'aller porter plainte. Le commissariat qu'elle a contacté va prendre attache avec celui de Manosque, va transmettre ce signalement. Les policiers appellent Laetitia, qui confirme ce qu'a dit son amie, mais qui refuse pour le moment de porter plainte. Il faudra attendre un mois pour qu'elle le fasse. Elle se rend finalement au commissariat le 17 juin 2022.
Et à cette occasion, Laetitia explique comment tout a commencé.
Lorsqu'elle rencontre Guillaume B. en 2015, Laetitia, elle est préparatrice en pharmacie. Lui, il a une dizaine d'années de plus qu'elle. Il est directeur d'une agence bancaire. Leur relation va démarrer assez normalement. Et puis, petit à petit, s'installe un rapport de domination entre les deux qui, selon Laetitia, va finir par dépasser le cadre sexuel. Elle rapporte de très nombreux rapports non consentis, déjà, des gifles, des coups. Et puis, elle raconte aussi avoir été forcée de se prostituer avec des dizaines d'inconnus ou des amis lors de relations sexuelles tarifées, parfois très violentes, que Guillaume B. écoutait par téléphone. Alors au début, il ne récupérait que la moitié des gains et il donnait l'autre moitié à sa compagne et puis au fur et à mesure, il a fini par garder la totalité. La mère de famille explique aussi avoir subi des violences psychologiques. Elle précise que son ex-compagnon la rabaissait constamment, l'insultait, la dénigrait. Toujours selon son récit, elle vivait clairement sous sa coupe. Elle devait lui demander l'autorisation si elle voulait sortir ou faire des achats par exemple. Pour faire en sorte qu'elle continue d'accepter toutes ces maltraitances, eh bien Guillaume B. lui faisait, selon elle, du chantage à la rupture. Et sous son emprise, Laetitia cédait à ce chantage.
Alors de nombreux témoins de l'entourage du couple sont entendus et ils confirment pour la plupart les dires de Laetitia.
Les enfants respectifs de Laetitia et Guillaume B. sont en effet interrogés par les enquêteurs. S'ils ne peuvent pas forcément confirmer les infractions de nature sexuelle, ils affirment par contre qu'ils ont bien été témoins des violences physiques comme psychologiques dont la mère de famille a été victime. Ils évoquent aussi le caractère colérique de leur père, de leur beau-père. Certains d'entre eux, les plus jeunes notamment, disent en avoir peur. Une voisine du couple explique de son côté qu'il lui arrivait aussi d'entendre des cris, des pleurs, des coups dans les murs. Elle décrit notamment une scène que vont retenir les policiers. Un jour, elle est invitée à un apéritif chez le couple et elle entend Guillaume B. proposer à l'un de ses amis d'avoir une relation sexuelle avec Laetitia sans demander son accord à celle-ci. En parallèle, la victime a pu fournir aux enquêteurs de nombreuses photos, des vidéos, des enregistrements, des échanges de SMS avec Guillaume B. Autant d'éléments qui sont venus pendant les investigations appuyer sa version des faits.
Alors Maître Honegger, je me tourne maintenant vers vous. Ces images, ces enregistrements que Laetitia a pu fournir aux enquêteurs, est-ce qu'ils ont été déterminants dans l'instruction? Et est-ce qu'on sait si elle les avait rassemblés et conservés dans l'éventualité de porter plainte un jour?
En fait, on a la vie d'un couple, j'allais dire comme tous les couples, d'un point de vue informatique. C'est-à-dire qu'on a des échanges quotidiens de SMS sur les différentes plateformes, sur WhatsApp. On a parfois des photos qui sont prises, on a parfois des vidéos qui sont faites et qui viennent narrer le quotidien, parfois presque minute par minute, de ce que vivait ce couple. la particularité de ce couple, c'est que ce que vivait Laetitia, c'est ce que vous avez appelé un calvaire, un enfer, une horreur. Et donc, on a en grande partie le récit de cela. Parce que tout a été conservé le jour où elle a décidé de déposer plainte et donc elle a pu verser aux policiers les éléments qu'elle avait en sa possession.
Donc c'est hyper précieux pour les enquêteurs.
C'est extrêmement précieux parce que ça permet d'avoir évidemment tout un tas d'éléments qui viennent confirmer, étayer ce qu'elle a pu raconter et parfois même compléter. Parce que sur certains aspects, vous savez, quand on vit ce genre de choses, c'est tellement horrible que le cerveau, pour vous protéger, oublie certaines choses ou vous dissimule à vous-même certaines choses. Et donc c'est vrai qu'à la lecture notamment de ces éléments, il y a un ensemble de choses dont elle voulait peut-être pas se souvenir et qui sont ressorties. Et il y a aussi beaucoup de choses que vous n'avez pas racontées, et je vous en remercie, parce qu'il y a une certaine pudeur par rapport à ces faits, dont on ne parle pas et qui vont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer en termes d'horreur.
Alors comment est-ce qu'il s'y prenait, le mode d'emploi, on ne va pas le donner ici, mais pour prostituer votre cliente, quel a été le process et les choses qu'il a mises en place?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui ressort notamment des expertises, c'est qu'on a un homme qui structure sa vie autour de ce qui cliniquement est appelé une perversion, c'est-à-dire une forme de plaisir qu'il tire de la souffrance des autres. Et donc, il a mis en place avec Laetitia dès le premier jour, dès le premier contact, un plan, une stratégie, un stratagème dont le but était de l'enfermer dans une prison mentale, psychologique, à partir de laquelle il pouvait disposer d'elle-même comme il le voulait et de la manière dont il le voulait et de son corps. Et donc, en matière de prostitution, mais comme pour le reste, à un moment donné, elle est dans une situation psychologique telle qu'il décide de tout à chaque instant. Et quand vous parliez, il décide quand elle sort, quand elle s'habille, quand elle va aux toilettes, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, quand et où elle a le droit de le faire, avec qui elle parle. Il décide de tout. Et comme elle est enfermée dans cette prison psychologique, un jour, il suggère, il lui impose la prostitution, alors au départ sous un prétexte ridicule qui est l'idée de payer d'éventuelles dettes qu'elle aurait, mais qui sont en fait liées au mode de vie qu'il lui impose de toute façon. Elle accepte, mais comme on accepte quelque chose quand on n'a pas le choix de faire autre chose que d'accepter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette relation, elle est marquée quotidiennement par des violences extrêmement graves, par des menaces de mort, par des menaces de mort sur les enfants, sur leurs relations. Donc en fait, on n'accepte pas, on se soumet ou on cède à la pression, à la contrainte et aux violences. Et donc elle accepte au départ de faire ça dans ces conditions-là. Et très rapidement, comme il l'a fait à chaque fois, ça commence par quelque chose de petit. Puis une fois qu'on est dans l'engrenage, il n'y a plus aucune limite.
Alors Elisa, pour revenir à Guillaume B, celui-ci tient un tout autre discours.
Oui, pour lui, tout était consenti, tout faisait partie d'un jeu de domination dont Laetitia avait accepté les règles. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique aux enquêteurs. Elle était, selon lui, d'accord pour avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, toujours dans le cadre de ce qu'il définit comme une relation, je cite, maître-esclave avec son ex-compagne. Et selon lui, cette dernière adorait être humiliée, ce sont encore ses mots. En entendant ce discours, les enquêteurs vont lui demander si le couple avait convenu d'un code pour que Laetitia puisse réellement manifester son désaccord. Guillaume B affirme qu'il y en avait un, pourtant il est incapable de citer ce code en déclarant qu'il a un trou de mémoire. Pendant l'instruction, comme le veut l'usage, le mis en cause va être examiné par un expert psychiatre et dans ses conclusions, ce dernier détaille que Guillaume B fait état d'un détachement affectif, d'une froideur, qu'il est marqué par une absence de remords, de culpabilité. Il considère l'autre, je cite, comme un objet essentiellement sexuel, c'est ce qu'on a dit un peu plus tôt, et l'expert conclut à un déséquilibre psychique de type pervers narcissique et à une dangerosité.
Alors Maître Neguer, on vient de parler des conclusions de l'expertise psychiatrique, du mise en cause. Qu'est-ce qu'a révélé celle qui a été réalisée sur votre cliente après toutes ces années de violence ?
Évidemment, ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique, c'est-à-dire que quand vous avez vécu un traumatisme tellement grave, qu'il soit d'ailleurs physique ou psychologique, vous avez un syndrome par la suite de stress permanent où vous revivez de manière extrêmement forte le traumatisme que vous avez vécu initialement, et puis vous avez un rapport au monde qui est totalement déformé par le traumatisme que vous avez vécu. Donc, dans son cas, c'est un traumatisme physique avec des conséquences physiologiques d'une extrême gravité la concernant. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sa vie ne sera plus jamais la même.
Est-ce que ce sont des séquelles physiques qu'elle gardera à vie? C'est la question qu'on
pose. Il y a des infirmités aujourd'hui qui sont permanentes. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, elle aura des séquelles très graves, quotidiennement, de ce qu'elle a pu subir. Et puis on a des séquelles psychologiques, et d'ailleurs parfois c'est lié, hein, parce que quand on a été tellement frappé par un traumatisme psychologique, que ça a des conséquences parfois aussi physiologiques. Et pour elle, voilà, elle a été détruite pendant 8 ans par un homme dans son intimité, dans sa féminité, dans simplement le fait d'être un être humain. Et donc c'est un travail de reconstruction permanent, de lutte, et de devoir vivre avec les répercussions de ce traumatisme.
Elisa, récemment, Laetitia a témoigné auprès de nos confrères de TF1.
Et dans ce témoignage, elle revient d'abord sur tout ce qu'elle a subi pendant ces 7 années de relation et qu'on vient d'évoquer. Elle raconte également ce qu'est devenu sa vie aujourd'hui avec, vous l'avez dit, un état de santé détérioré. Elle fait aussi une déclaration marquante. Elle ne souhaite pas demander le huis clos au démarrage du procès de son ex-compagnon. Elle explique, je cite, que ce dernier l'a tenue avec la peur et la honte et qu'aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas à elle d'avoir honte. L'audience s'ouvre donc le 18 mai. Elle terminera en fin de semaine, le vendredi 22 mai. Et pour les faits qui lui sont reprochés, eh bien, Guillaume B. encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Alors, merci Elisa pour ces explications. Maître Honegger, pour rappel, vous êtes donc l'avocat de Laetitia. Son ex-compagnon va être jugé à partir de lundi, ce lundi 18 mai, dans les Alpes de Haute-Provence. Vous l'avez déjà un peu esquissé. À quoi ressemble la vie de Laetitia aujourd'hui? Et question beaucoup plus simple, comment va-t-elle à l'approche de ce procès?
Vous savez, Laetitia, c'est vraiment une survivante, quoi, au sens propre de ce que ça peut vouloir dire. Et aujourd'hui, elle est déterminée à aller jusqu'au bout de ce combat. Son combat, c'est d'abord de faire reconnaître sa qualité de victime et qu'elle puisse dire ce qu'elle a subi et que celui qui lui a fait subir ça puisse être condamné pour ça. Et puis, elle a une détermination extrêmement forte, et c'est aussi pour ça qu'elle veut que le procès soit public, pour montrer que la honte, la peur doit changer de camp. Et elle a envie, comme elle a pu être un peu inspirée par l'histoire de Madame Pellicot, qu'elle puisse elle aussi dire ces choses-là et que si d'autres femmes l'entendent et d'autres femmes vivent la même chose, qu'elles puissent avoir le même courage qu'elle de réussir à dénoncer les choses, à aller en justice et de se dire que c'est possible de s'en sortir. Et puis, elle a surtout cet immense courage qui est l'envie d'aller et de montrer à cet homme qu'il n'a pas gagné, qu'il a essayé pendant 8 ans de la réduire au silence et qu'à la fin, c'est elle qui l'emportera et qu'elle parlera jusqu'au bout pour dire les choses. Et donc, elle a cette force qui l'habite et qui est extrêmement impressionnante.
On ne parle pas ici de soumission chimique, mais vous l'avez dit, l'histoire de Gisèle Pellicot, forcément, elle fait écho à celle de Laetitia. Et cette affaire, donc, ça a été un déclic pour elle, pour se libérer, pour libérer sa parole?
Alors, elle a déposé plainte avant, disons, que l'affaire de Gisèle Pellicot devienne très médiatique, donc elle n'en avait pas forcément connaissance, mais sa volonté que ça soit public, ça vient de ça, et je crois que c'est un mouvement un peu plus général. Moi, je défends beaucoup des victimes de ce genre de faits. Et il y a eu un mouvement général qui est effectivement de dire on a envie que ça soit public, parce que, encore une fois, la peur doit changer de camp. Mais je crois aussi, pour que le grand public puisse avoir connaissance de ce qui se passe dans cette intimité-là, et puisse mieux comprendre des mécanismes parfois psychologiques d'emprise, de contrainte, de violence, qui sont pas forcément évidents. Vous savez, nous, on a pu, dans cette affaire, être confrontés parfois à des commentaires de gens qui disent « Mais comment ça se fait que pendant 8 ans, elle est pas partie ?» Et moi, je réponds de manière très simple. Cette question, elle est pertinente si on la comprend bien. La question n'est pas de savoir est-ce qu'elle avait la possibilité de partir ou de ne pas partir et pourquoi elle n'est pas partie. La question, c'est de répondre pourquoi elle n'est pas partie, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui font qu'on l'a empêchée de partir. Et la réalité, et c'est, je crois, une des choses qui sera très intéressante dans ce procès, c'est qu'on va comprendre comment un homme va réussir à mettre en place tout un ensemble de systèmes qui, effectivement, vous empêchent de partir. La porte est peut-être ouverte, mais la prison mentale, elle, reste absolument verrouillée.
Enfin, en l'occurrence, elle n'était pas vraiment ouverte puisqu'elle décidait même des horaires auxquels elle devait entrer et sortir. Qu'est-ce que votre cliente, elle espère de ce procès ? Est-ce qu'il y a des mots qu'elle attend ? Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de la parole de l'accusé ?
Il y a un espoir, j'allais dire, possible. C'est simplement qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse verbaliser, qu'elle puisse être entendue par un juré populaire, qu'il puisse y avoir une décision de condamnation qui soit prononcée. Et ça, c'est ce qui va arriver et c'est très important. Est-ce qu'on attend autre chose ? On attend toujours autre chose. Est-ce que ce monsieur aura la décence à un moment donné de reconnaître les faits et éventuellement, j'ose même pas l'imaginer, de présenter une forme d'excuse ? J'y crois pas. Et très honnêtement, c'est pas ce qu'on attend. Maintenant, les miracles existent parfois. Mais très honnêtement, c'est pas du tout l'enjeu du procès. Je crois que l'enjeu du procès, c'est vraiment que on voit ce qu'elle a vécu, qu'il soit condamné. Et je crois aussi qu'on comprenne qui est cet homme. On va être face à une personnalité très très singulière. Personnellement, moi, je n'avais jamais été confronté à ce genre de personnalité avec ce type de gravité. Et ça sera aussi l'occasion pour le grand public, peut-être pour la première fois, de voir en face ce que ça veut véritablement dire, ce genre de personnalité.
On rappelle que le procès s'ouvre lundi, donc à Digne-les-Bains, et que l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup, Maître Neguer, pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.